Québec et Saint-Hyacinthe.
FM 93, ce midi.
Le ministre du Travail, Jean Boulet, veut faire reconnaître les maladies psychologiques liées au travail. À l'heure actuelle, il y a une longue liste de maladies physiques, intoxication aux produits chimiques, la tendinite, l'asthme, peu importe, qui sont reconnues par la CNESST, mais il n'y a aucune maladie mentale ou psychologique qui se retrouve là-dedans. Il y a vraiment une volonté de changement du côté du ministre et on va en discuter avec France Saint-Hilaire. Elle est professeure au département de management et gestion des ressources humaines à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Madame Saint-Hilaire.
Bonjour.
On en parle plus, mais est-ce qu'il y a vraiment plus de problèmes de santé psychologique en milieu de travail?
C'est une question qui est complexe. On en parle plus, on en déclare plus. Mais effectivement, les modifications des conditions de travail, de l'économie de marché, donc on s'en va de plus en plus vers une économie du savoir, a fait augmenter effectivement les problèmes de santé psychologique au travail, et ça dans tous les pays. Donc, avant, c'était davantage les pays dits occidentaux. Okay. Donc là, on voit des problèmes de santé mentale apparaître, par exemple, dans des pays comme l'Inde, qui sont des pays en émergence. Donc, ça rend la problématique de la santé psychologique une problématique de santé, je dirais, prioritaire pour l'Organisation mondiale de la santé.
Est-ce qu'il y a des domaines d'activité qui sont davantage touchés que les autres?
Alors, auparavant, on parlait beaucoup de tout ce qui est profession de relations d'aide. On peut penser aux infirmières, aux médecins, aux travailleurs sociaux, aux psychologues. Oui. Présentement, on voit que l'ensemble des secteurs sont touchés. Effectivement, il y a toujours une prévalence plus importante, par exemple, dans le secteur de la santé, en raison d'une pénurie de ressources. Ce qui est un petit peu plus inquiétant, c'est qu'on voit, par exemple, que les cadres qui étaient préalablement protégés des problèmes de santé psychologique reliés au travail sont présentement un des corps d'emploi les plus à risque. Alors, on voit des nouveaux corps d'emploi exposés. Alors ça, c'est une préoccupation aussi pour la santé publique, mais pour la performance des entreprises.
On en déclare plus, vous l'avez dit. Sentez-vous quand même que c'est moins tabou qu'auparavant, qu'on en parle plus ouvertement?
C'est une très bonne question. Il y a une question perceptuelle ici. Les gens sont prêts à en parler. Par contre, de dire qu'ils souffrent d'un problème de santé mentale ou qu'ils ressentent de la détresse, il demeure qu'il y a encore un tabou. Donc, on est prêt à entendre que les autres ont des problèmes de santé mentale, à accepter cette réalité-là.
Quand c'est à notre tour, exact.
C'est plus difficile. Ça reste tabou, effectivement, surtout pour les cadres, entre autres.
J'aimerais savoir, parce que là, le ministre, ce qu'il veut faire, c'est reconnaître les maladies psychologiques liées au travail. Comment peut-on déterminer que c'est vraiment lié au travail? Parce qu'il peut y avoir plusieurs autres facteurs. Il peut y avoir des facteurs familiaux, il peut y en avoir toutes sortes d'autres qui peuvent entrer en ligne de compte. Si on prend l'exemple d'une blessure qui se fait sur un milieu de travail, une blessure physique, c'est facile de dire, ben oui, ça s'est fait sur le lieu de travail. Mais là, au niveau psychologique, ça me semble un peu plus complexe.
C'est effectivement plus complexe. Il y a personne qui va être capable de déterminer que votre épuisement professionnel est dû à 62,5% en raison de votre travail.
C'est ça. Hein?
C'est souvent des vases communicants parce que si vous vivez du stress au travail, ben éventuellement à la maison, vous allez être moins patient et ça va peut-être aussi augmenter vos problèmes interpersonnels dans votre milieu dans votre milieu personnel et ça va être communicant ces deux secteurs d'activité-là. Comment il faut le prendre en santé psychologique, c'est davantage l'exposition au risque. Et ça, on a énormément de connaissances scientifiques et on est capable de le mesurer. C'est-à-dire qu'on connaît bien les facteurs de risque présents dans une organisation, dans un milieu de travail, qui, si vous êtes exposé de façon prolongée, vous allez augmenter vos risques de problèmes de santé psychologique au travail. Donc, c'est vraiment la notion de risque qui est importante et qui relève, en fait, de la responsabilité des entreprises de dire on va diminuer l'exposition aux différents risques, comme la surcharge de travail, le harcèlement psychologique, l'absence de soutien. Ce sont des risques qui sont bien documentés dans la littérature scientifique.
OK. Donc, par exemple, on se projette un peu dans l'avenir. Si la CNESST pouvait s'appliquer, par exemple, à une dépression, il y aurait peut-être quelqu'un de la commission qui viendrait en milieu de travail et qui essaierait de déterminer quels sont les facteurs de risque avant de dire, OK, c'est dû au travail?
Tout à fait. Effectivement, le médecin traitant va pouvoir donner un avis avec l'historique, mais en faisant comme on fait quand il y a un accident, une inspection, en fait, on est en mesure de faire des diagnostics organisationnels. On le fait déjà dans des organisations où il y a des crises, quand on veut réduire les problèmes de burn-out, de roulement de personnel. Donc, on peut venir faire une évaluation. Et ça, c'est déjà très connu. Il y a plein d'organismes qui offrent, par exemple, des diagnostics pour mesurer votre niveau de risque dans votre organisation. Et effectivement, on va être en mesure de dire, ben, les travailleurs ont été plus ou moins exposés à des risques qui sont reconnus comme étant des facteurs qui contribuent contribue aux problèmes de santé mentale.
Une fois que le diagnostic est pris, il faut quand même qu'il y ait une volonté des gestionnaires de changer les choses. Là. Oui, il y a un état de fait, mais le gros du plan pour redresser la situation, ça revient quand même au patron de l'entreprise en question.
Ben écoutez, c'est le nerf de la guerre ce que vous êtes en train de dire, parce qu'effectivement, la loi a vraiment besoin d'être dépoussiérée. Là, on est en retard par rapport à plusieurs pays sur l'obligation d'évaluation des risques psychosociaux. Une fois que je vous ai dit que vous êtes à risque, ce qui demeure le grand défi des organisations et dans les autres pays également, qui n'ont pas nécessairement une obligation de résultats, mais une obligation de moyens, c'est de passer à l'action. Et là, on touche à des sphères, quand on parle de surcharge de travail, de manque de reconnaissance, de harcèlement, ça implique effectivement les gestionnaires et ça implique la gestion des ressources humaines. Et ça, c'est pas facile d'amener des changements sur le long terme et de comprendre que l'investissement en temps de modifier les pratiques de gestion, c'est pas une perte de temps de productivité, mais au contraire, ça va nous permettre d'augmenter la performance des employés. Donc, il est là le nerf de la guerre. Et dans la modification de la loi, il faudra surtout pas oublier d'outiller les organisations, les employeurs, pour qu'ils puissent passer à l'action.
Dans le cas d'une blessure physique, si on refait encore un parallèle, là, s'il y a des gens qui trichent, il y a des inspecteurs qui vont être sur le terrain pour voir si, par exemple, quelqu'un qui se dit blessé va aider son ami à déménager. Dans le cas d'une maladie psychologique, je vois difficilement comment ça pourrait être fait. Comment il peut y avoir un suivi adéquat? C'est seulement des rendez-vous cliniques avec un spécialiste?
C'est une bonne question que vous posez, parce qu'il faut changer notre façon de voir en fait l'accident de travail par rapport à la santé psychologique. On me raconte souvent, par exemple, des gens qui vont souffrir de burn-out. Il y a des collègues qui vont les apercevoir lors d'une journée de congé alors qu'eux sont en congé maladie, au cinéma en plein après-midi, et ils vont dire ben il est certainement pas malade.
C'est ça, ou mettre une photo sur Facebook, par exemple. Ah, il avait l'air heureux sur Facebook, il est correct, il peut revenir au travail.
Exactement. Donc, ça semble bien aller dans sa vie personnelle. Ça, c'est un grand préjugé qu'on a par rapport à la santé psychologique, parce que quand il y a un stresseur, par exemple, vous vivez du harcèlement, on va dire à la personne, essayez évidemment de vous éloigner de ce stresseur-là et essayez de vivre des événements qui vont vous procurer du plaisir. Alors, c'est ce qu'on va encourager dans la guérison, de mettre la personne dans des contextes de vie où elle va retrouver le plaisir pour certaines activités.
Okay.
Alors, c'est une façon différente, en fait, de réfléchir à la santé psychologique. Est-ce qu'il va y avoir des cas d'abus? Effectivement, il y a une détection qui est faite de la part du médecin traitant. Et ça, c'est, je dirais, une lacune qu'on a également, c'est-à-dire le diagnostic pour les problèmes de santé psychologique reliés au travail. Les médecins ont peu de formation et c'est souvent ceux qui vont produire le diagnostic. Donc, il va y avoir aussi du travail de ce côté-là à faire.
Et pour les spécialistes, comment ils vont faire pour déceler des gens qui, excusez-moi l'expression, fake un peu, donc qui vont arriver avec des symptômes, peut-être de dépression, vont pleurer devant eux et tout le kit, mais que c'est juste pour aller chercher l'indemnité?
En fait, le cas que vous évoquez, qu'on voit le plus souvent dans les organisations, c'est lorsque les employés sont confrontés à des problèmes de performance et qui sont rencontrés, par exemple, pour des avis disciplinaires.
OK.
Et là, la réaction qu'on va rencontrer, c'est que le lendemain matin, tout d'un coup, on reçoit un billet du médecin. Alors, effectivement, normalement, les psychologues, un peu moins les médecins, mais les psychologues sont capables de détecter, en fait, des symptômes qui sont davantage reliés à des troubles de personnalité. Ça ne veut pas dire que les gens ne vivent pas de la détresse, mais de là à dire que la dépression a été créée, par exemple, par le milieu de travail. Donc, une enquête ou un diagnostic va bien démontrer que l'employé, par exemple, avait vécu des problèmes de performance au travail, qu'on lui avait donné le soutien et qu'il n'y avait pas d'enjeu ici d'exposition facteur de risque. Donc, je dirais que je ramènerais ça encore à l'évaluation des facteurs de risque en milieu de travail.
Mm-hmm. Vous disiez que pour favoriser la guérison, il faut éloigner la personne du stresseur. Si le retour au travail est lié à un stress qui, par exemple, est dû à un gestionnaire ou à un collègue, comment on agit dans ce temps-là? On peut quand même pas congédier un collègue avec lequel on s'entend pas s'il nous stresse trop. C'est difficile comme situation.
En fait, souvent, c'est la situation typique qu'on va connaître dans les cas de burn-out ou de dépression. C'est le facteur de risque a un nom, un prénom.
Ouais, c'est ça.
Et la situation n'est pas gérée. On envoie la personne 6 mois se reposer à la maison, souvent avec aucun contact là, de la part de l'organisation, parce qu'on veut pas que ce soit perçu comme du harcèlement. Et après 6 mois, on réintègre la personne dans la même équipe et dans un environnement en fait qui contribuait à sa maladie.
Qui a pas changé.
Alors, Oui, tout à fait. En fait, c'est normal, quand il y a un départ comme ça pour épuisement professionnel, normalement, ce qu'il faut faire, c'est une intervention organisationnelle pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Un peu comme quand il y a un accident, en fait. Quand il y a eu un accident, on va essayer de faire une analyse et on va éviter que ça se reproduise.
C'est ça, dans les opérations, où est-ce qu'on a failli puis comment on pourrait améliorer la situation?
Exactement. Donc, il y a une intervention d'équipe qui va être faite. Et s'il y a des enjeux qui sont interrelationnels entre les membres de l'équipe et le gestionnaire, donc il doit avoir une intervention qui va être faite pour essayer de voir est-ce que on doit amener des correctifs auprès de l'équipe. Et parfois, la solution, c'est de changer certains membres d'équipe, effectivement. Ouais. C'est la solution ultime, mais plus on attend, plus c'est difficile de corriger la situation.
C'est pas tout le monde qui gère le stress ou l'anxiété de la même façon. Certains vont mieux le gérer. Ça devient pas un peu préjudiciable pour ceux-ci?
Vous avez tout à fait raison. Il y a des enjeux, des traits de personnalité, des différences individuelles qui vont prédire votre réaction au stress. Pour vous, peut-être qu'une demande que je vais vous faire en urgence va représenter représentera pas un stress, alors que pour votre collègue, ça va représenter un très grand stress. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des différences individuelles, les études ont montré que peu importe vos fragilités, votre personnalité, si vous êtes exposé longuement et fortement à des facteurs de risque, vous allez développer des conséquences. Donc, c'est, je dirais plutôt sur la durée. Est-ce que ça va prendre plus ou moins de temps et sur quel type de symptômes que vous allez développer? Parce qu'on parle beaucoup du burn-out, mais il y a beaucoup de gens qui vont vivre ce qu'on appelle les troubles psychosomatiques, là, troubles du sommeil, maux d'estomac, mais qui ne sont pas captés. Donc, les différences individuelles sont pas un prédicteur important ici là pour intervenir en santé mentale au travail.
OK. Pour un gestionnaire qui voudrait être proactif puis essayer de faire en sorte que ses employés soient le mieux possible en milieu de travail, est-ce que certaines pistes qui peuvent emprunter là, pour assurer la santé psychologique de ses employés?
Bien, premièrement, qu'il s'assure que lui, il est en bonne santé.
Ça commence par lui.
Oui, qu'on commence par soi, parce que quand on est nous-mêmes en détresse, on n'est pas en mesure d'aider quelqu'un. Donc, est-ce que je suis en bonne santé psychologique? Deuxièmement, qu'il s'assure de maîtriser quels sont les facteurs de risque et les facteurs de protection dans l'environnement de travail, de bien les connaître. Et troisièmement, de bien comprendre quelles actions il peut poser au quotidien pour réduire les facteurs de risque, l'exposition de ses travailleurs. En ayant ces réflexes-là, il va réduire grandement les sources de stress pour ses employés. La majorité là des facteurs de stress sont souvent dans un environnement très proche de nous. C'est rarement les décisions du PDG là qui vont nous amener en burn-out. Ça va être davantage les interactions au quotidien, la surcharge, le manque de reconnaissance. Donc ça, c'est une excellente nouvelle parce que le gestionnaire a un pouvoir sur ces facteurs-là.
Exact. Et en terminant, quels selon vous, quels éléments devraient être prioritaires pour le ministre dans l'élaboration de sa réforme? Vous dites qu'il y a des exemples sur lesquels on peut se baser. On est en retard au Québec. Quels sont vraiment les éléments les plus importants qu'on va devoir regarder l'automne prochain?
Ben, je pense qu'il va falloir se pencher là sur effectivement l'obligation de mesurer les facteurs de risque. Il va falloir y aller progressivement parce que ça va être un grand changement pour les organisations. Et ça, je pense que c'est un chantier sur plusieurs années. Je dirais que la priorité que moi j'accorderais avec la loi, c'est de voir comment on va outiller les employeurs. C'est souvent la partie qu'on oublie quand on fait des projets de loi ou des modifications à la loi. Donc, on a une exigence, mais sur plusieurs années, il va falloir accompagner nos employeurs pour qu'ils puissent être en mesure d'agir sur ces facteurs de risque-là. C'est la difficulté qu'on rencontre dans les pays qui ont seulement mis en place une législation pour accompagner les différentes entreprises.
Merci beaucoup, Mme Saint-Hilaire, pour les dernières minutes. C'est très intéressant.
Ça me fait plaisir.
À bientôt. France Saint-Hilaire, elle est professeure au département de management et gestion des ressources humaines à l'Université de Sherbrooke. C'est un grand chantier. On voit qu'il y a du bon, il y a de bonnes intentions derrière ça. Maintenant, de voir comment on va le déployer, il va falloir outiller les employeurs, il va falloir outiller les médecins aussi pour être capable de traiter ça. Il va falloir outiller la CNESST pour assurer un suivi qui est efficace. Ce sera pas simple.
Ah non, il va falloir vraiment que ça soit très, très bien balisé. Puis, je peux comprendre que les lois sur la santé et sécurité au travail, là, les lois qui régissent ça, ça date des années 70, 80. Ah oui. On s'entend-tu que le monde du travail a changé?
Ah oui.
Le travail est souvent beaucoup moins physique qu'il l'était par le passé. a beaucoup plus d'intellect d'habitude, et c'est certain qu'il faut s'adapter, sauf que là, il n'y a pas eu d'adaptation au fil des ans. Là. On est resté avec cette même vieille loi-là parce que les lobbies d'un côté et de l'autre, surtout du côté des employeurs, ne voulaient pas que ça change. On achetait la paix.
Chez les assureurs privés, il y a une culture parfois qui est assez inquisitrice pour les gens qui sont en arrêt de travail. On a un texto 25226 qui nous dit « J'ai fait un burn-out fin 2014, retour au travail juin 2015. J'étais à la maison tout le temps, j'étais à la Coupe Memorial des Remparts. Une fois, j'ai été vu à la télévision, bang! L'assureur m'a harcelé immédiatement. Je me suis senti tellement non comprise. » Si la CNESST se mettait à agir de la même façon, est-ce qu'on a vraiment gagné quelque chose? Mais d'un autre côté, pour ceux qui prendront pas l'assurance pour eux, ben ils veulent pas qu'il y ait d'abus. Donc c'est de trouver le juste équilibre là-dedans et ça va faire partie du chantier du ministre Boulet au cours des prochains mois.
Et quand il est question de santé mentale et psychologique, moi je me dis tout le temps une chose, faudrait travailler davantage en amont.
Ouais.
Pour la simple et unique raison, outiller les gens pour qu'ils soient capables de faire face au stress que quand ils décident de faire une profession, de faire un job, qu'ils connaissent la charge de stress qui leur sera imposée dans le cadre de leur fonction pour qu'ils soient capables de le gérer. Parce que c'est souvent ça le problème. Il y a des gens qui vont très bien le gérer parce qu'ils sont bien outillés, puis il y en a d'autres qui vont très mal le gérer où l'anxiété va augmenter à un point tel où à un moment donné, ça va péter.
C'est ça.
Mais n'ont pas les outils.
Ce qui est difficile, c'est que comme individu, comme tu le disais, on n'a pas la même tolérance au stress. Puis des fois, quand quelqu'un part en burn-out, on dit « Mais voyons, il me semble, je travaille plus qu'elle ou j'ai plus de responsabilités. Je comprends pas pourquoi elle est tombée ou cette personne-là est tombée alors que moi, ben je tiens le fort. Moi aussi, je suis fatigué. » Puis tant qu'on n'est pas dans la situation de burn-out, on peut pas réellement comprendre. Mais moi, je pense qu'il y a personne qui est immunisé. Tout le monde peut se ramasser à mettre un genou à terre à un moment donné. On touche du bois pendant que ça va bien. On prend sous nous autres, oui, on est fatigué, oui, mais il y a personne qui est complètement à l'abri de ce genre de problème-là.
Et ce changement que veut apporter le ministre du Travail, ce que ça va faire, ça va mettre les travailleurs sur un pied d'égalité parce qu'actuellement, il y a les travailleurs qui ont des assurances privées qui, eux, peuvent justement décrocher puis avoir leur salaire en compensation ou, tu sais, habituellement, ça va être 80-90% peut-être. Sauf que il y a d'autres salariés, souvent des salariés salaire minimum, qui eux n'ont pas de telles assurances. Donc, qu'est-ce qui arrive avec eux? Ben, sont obligés d'arrêter de travailler.
Exact.
Et là, se retrouvent sans revenus, sont obligés soit de se mettre sur le chômage ou autre, mais habituellement, ils n'ont pas le droit au chômage parce que c'est eux qui ont quitté.
C'est ça. On aurait tous la même base si c'était appelé à évoluer. Il est 11h42, on fait une pause au FM 93.
FM 93, ce midi, de retour après la pause.